Poète, prends ton rut. Qui se souvient encore qu'il exista jadis un enfer de la Nationale ? C'était un département de la vénérable bibliothèque parisienne située rue de Richelieu, où l'on pouvait avoir accès, moyennant autorisation, et après avoir attesté de la respectabilité de ses intentions, aux ouvrages qui étaient par ailleurs interdits à l'étalage, comme on disait. Aujourd'hui que s'étale chez les libraires des publications qui se permettent toutes les outrances, cet usage semble antédiluvien. Or, longtemps, sans montrer patte blanche, on aurait pu consulter, à moins de connaître un collectionneur spécialisé, ou d'avoir recours à des circuits parallèles ou clandestins, les écrits érotiques de Pierre Louys. Aujourd'hui, ils sont en vitrine des meilleures librairies et recommandés dans un magazine à gros tirage par Jean d'Ormesson lui-même. Il est vrai qu'ils paraissent dans une collection où Jean Do, pour les intimes, aime à publier les lycées livres anciens comme il le fait ces jours-ci pour ses romans d'amour de jeunesse. Il s'agit évidemment de bouquins, cette très souple réplique à la plus raide pléiade. Il faut le dire tout net, cette édition de l'œuvre érotique signée Louys est un événement. C'est que Louys n'était pas un inconnu, loin de là. Un petit maître, certes, que l'on savait très lié à Paul Valéry. Ils se connaissaient depuis le lycée, avaient abondamment correspondu, s'étaient aussi abondamment fréquentés durant toute leur vie, plus courte de 20 ans dans le cas de Louys, puisqu'il est mort en 1925, tous deux étant nés en 1870. Valéry venait du sud, de Sète, très exactement, la ville dont il chanterait le cimetière marin, et Louys du nord, puisqu'il était né par hasard à Gand, descendant par son père d'un pair de France, par sa mère d'un médecin de Napoléon. On ne lui connut pas d'emploi absorbant, à la différence de Valéry qui est dû longtemps occuper d'humbles fonctions. Louys put donc se vouer entièrement à la littérature. Traducteur, érudit, il fut le premier à lancer l'hypothèse que l'œuvre de Molière pourrait être en partie due à Corneille. Poète, prosateur, il dut longtemps sa notoriété à des livres osés, sans être contraires aux conventions de l'époque, mais qui provoquèrent sans doute bien des émois adolescents, les chansons de Bilitis, Aphrodite et surtout La femme et le pantin, qui date de 1898 et eut droit à des adaptations filmées notoires, dues surtout à leur star féminine, Marlène Dietrich, dirigée par Joseph von Sternberg, et Brigitte Bardot. Tout cela parut avant 1900. Ce qui fit dire à un commentateur dans les colonnes du Dictionnaire des auteurs paru dans la même collection bouquins qu'il fut, je cite, « frappé d'une brusque stérilité ». L'expression est doublement malheureuse, car non seulement elle continua à écrire d'abondance, mais mena une vie sexuelle des plus actives. Le problème, c'est que cette frénésie, dont nous avons maintenant de nombreuses preuves, lui inspirait des écrits dont la censure de l'époque aurait résolument interdit la circulation. Il les publiait donc très discrètement, ou le plus souvent les réservait à ses tiroirs, au point que l'on découvrit à sa mort quelques 400 kilos de manuscrits ne traitant exclusivement que de sexe. On y trouvait aussi bien le registre très précis de ses fredaines que des récits, poèmes, chansons, comédies, sottises auprès desquelles ses œuvres divulguées ne sont que roupies de Sansonnet. De cette masse énorme, Jean-Paul Goujon a sélectionné, sans revendiquer aucune exhaustivité, 1000 pages, très souvent drôles, toujours magistralement écrites, qu'il est difficile de citer sans user de mots que l'on remplaçait autrefois par des points de suspension. Ici, tous les chats portent leur nom et ne sont pas gris.